Le début d'un stage est toujours décevant. Seule la curiosité et le courage nous amènent à la réussite. Mutomba Bill, né à Cabinda le 25 octobre 1994 en République démocratique du Congo. Plus connu sous le pseudonyme de Topen Bill, est un homme de science, des sciences, chanteur, figure célèbre dans le Parisien à travers ses citations célèbres, poète et libre penseur, puis infirmier polyvalent. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 4 février 2023. Et bienvenue sur Radio Valois-Mulsien dans l'émission Pédagorando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Notre thème du jour, apprentissage et stage, que faire? Pour cela, nous recevons Marie Thomassin, présidente de l'association Objectif Réussir. Marie, peux-tu te présenter?
Alors, donc, je suis la présidente d'Objectif Réussir que j'ai créée en 2007. En 2016, j'ai créé également la société La Croisée des Possibles, en 2016. Et pour Objectif Réussir, qui est une partie de l'objectif de la Réunion, j'ai créé un site où beaucoup d'informations sont données, objectifreussir.eu. Et j'ai également une page Facebook et une page Instagram pour y recentrer des histoires de vie qui me sont transmises lors de réunions avec des jeunes, donc que l'on peut retrouver facilement.
D'accord. Pourquoi avoir créé Objectif Réussir, en fin de compte? Parce que je crois qu'avant, tu étais professeur.
Alors, tout à fait. Donc, j'ai créé Objectif Réussir. J'ai enseigné en collège comme en lycée, dont du lycée technique.
En quelle matière?
En sciences de la vie et de la terre pour le collège-lycée et pour le lycée seul. En plus, en technique, j'ai enseigné, et en maths, pardon, j'avais oublié en collège. Et j'ai également enseigné en ST2S, donc qui oriente vers les formations aide-soignante, soignante, et également tout ce qui est autour du social. Donc, qui est une classe assez difficile et qui, si elle s'appelle technique, ne veut absolument pas dire que c'est une formation facile. C'est ça qui m'a sensibilisée aussi à tout ce qui est professionnel et ce qui est aussi bien bac professionnel, bac d'orientation apprentissage que les bacs généraux. Et c'est pour ça que je reste très ouverte aux bacs et aux orientations, bac pro, bac général, apprentissage, CFA. Et également donc bac général pour du post-bac, ce qui est une obligation quand on fait un bac général.
D'accord. Alors effectivement, tu as fait une réunion il n'y a pas très longtemps au niveau de Parcoursup hein, pour aider aussi bien les élèves et aussi les parents dans le choix.
Alors ce n'est pas exactement ça. Au début, j'étais partie sur le fait de parler plus ou moins de Parcoursup. Et après coup, je me suis dit que le directeur du CIO avec qui j'avais travaillé pendant longtemps et qui le présentait ensuite au lycée Jean Monnet avec l'appui de la proviseure, pardon, Madame Hould, qui est partie maintenant sur Noyon, ce Parcoursup nécessitait normalement d'avoir un représentant, on va dire, du CIO qui est à Compiègne. Maintenant, c'est une présidente. Je ne voulais pas recommencer toute cette démarche qui est tombée à l'eau un petit peu liée au Covid, hein, 2 années où il n'y a plus d'informations là-dessus. Donc, j'ai préféré m'orienter plutôt vers les élèves de 4e, 3e, seconde. L'invitation qui était dans ce sens laissait entendre qu'on pourrait aussi aller sur Parcoursup, mais j'ai eu essentiellement des élèves de 4e, 3e seconde et leurs parents, puisque c'était ce qui était demandé. L'idée étant de les sensibiliser au parcours d'orientation réfléchi et non pas des objectifs d'achat cadeau par le biais de Parcoursup, puisque j'ai toujours l'impression que c'est une grosse vitrine d'achat. Et j'aime pas trop ce côté, on va dire, pâtisserie. On regarde une vitrine et on imagine qu'on peut acheter tout ce qu'on veut dedans, en tous les cas le réclamer, alors que ça n'est pas gagné d'avance. Donc voilà pourquoi j'ai plutôt voulu sensibiliser les parents et les jeunes. C'est pour ça que je voulais qu'ils soient présents à leur parcours d'orientation, puisque je considère que les deux doivent être impliqués.
Alors ce parcours d'orientation, tu l'as fait dans un établissement scolaire, non? Pas du tout.
Ah si, tout à fait, pardon. Donc j'ai enseigné un certain temps et dès le début, quand j'ai été prof principal et même en dehors, tous les profs ont la possibilité, c'est écrit plus ou moins en marge du bulletin officiel dont je parlais, de parler de l'orientation. Donc en fait, au niveau l'éducation nationale, ce n'était pas possible au niveau de la charge de programme. Mais pour autant, moi, j'essayais d'en parler, mais pas sur des thématiques particulières de la SVT ou de la ST2S ou des maths quand j'en faisais en collège. C'était plutôt de façon générale pour qu'ils rentrent en réflexion. Mon idée n'était pas de les orienter par rapport à ma matière, mais de les sensibiliser au parcours d'orientation. Et quand j'étais prof principale sur un établissement, j'ai exigé ce qui peut se faire, puisque en général, on ne se bat pas pour être prof principal. Donc, j'ai exigé de pouvoir parler de l'orientation si j'avais la charge de prof principal, qui est une charge. Hein, c'est un cadeau, mais c'est aussi une charge. Et c'est ce qui a été convenu avec le chef d'établissement. Donc, j'ai fait venir des parents, puisque je suis très ouverte aux parents. Et je leur ai fait faire des interventions. Ce n'est pas moi qui intervenais. Pour parler de leur métier et montrer l'amour du métier aussi. Ce n'est pas nécessairement la formation, c'est l'amour du métier qui compte à mon sens. Donc je voulais absolument qu'ils s'expriment là-dessus. J'ai deux parents qui sont exprimés. Et on a fait aussi une petite balade à Paris dans cet objectif avec un car. Donc tout ce qui est compliqué au niveau de l'organisation. Voilà, on n'avait pas encore les alertes, je ne sais pas quoi, là, le Covid, on n'avait pas tout ça. Mais c'était déjà compliqué de le mettre en place. Et l'idée, ça avait été d'aller sur un salon qui était ouvert dès le vendredi après-midi et le samedi uniquement, pas le dimanche. Et l'idée, c'était de présenter aux jeunes par binôme ou trinôme qu'ils aillent sur des zones qui les intéressaient. Alors l'idée, c'était de travailler en amont, hein, c'était pas de l'impro, voilà. C'était parce que j'étais prof P. Et c'était de travailler ça en amont, et puis ensuite, avoir aussi une restitution. Donc ils avaient été obligés de restituer des informations là-dessus. Donc c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis, c'était l'idée un peu. Hein.
D'accord.
Ça peut se faire à tout niveau. Ça peut se faire au niveau du collège, par exemple, à Crépy-en-Valois, puisqu'il y a à Krupeninck une réunion, une possibilité d'aller sur dans la zone Krupeninck, la salle Krupeninck, il y a la possibilité d'aller une fois par an sur une réunion ouverte où toutes les formations post-collège sont indiquées. Ben, si toutes les classes y allaient d'office, pas en pointillé, ce serait aussi une possibilité de se sensibiliser à des métiers qui vont de l'apprentissage à du post-bac. Donc moi, j'ai vu des choses qui étaient très intéressantes. En tout cas, j'ai su, puisque je n'y étais pas conviée, mais j'ai su qu'il y avait des établissements que j'avais accueillis sur mes salons de la formation, sur ma salle, la Croisée des Possibles, qui est un ERP, donc j'ai le droit d'accueillir. J'avais accueilli des établissements de Villers-Cotterêts, de Soissons, et de la Ferté-Milon, donc, scandale, c'est le 02.
C'est le 02, oui.
Voilà, alors qu'on doit rester que sur le 60. Et également aussi bien du privé que du public. Donc, deuxième scandale.
Deuxième scandale. Hein,
et donc, j'avais mélangé tout ça, harmonieusement. Et grâce à ça, l'information était globale. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce que j'ai aussi vu la réaction de jeunes qui sont revenus saluer leurs profs. Et d'autres au contraire qui les évitaient. Donc ça montre aussi la relation avec l'enseignant, la relation que ce soit du professionnel ou du général, la relation avec l'enseignant joue énormément sur la réussite dans les études. Voilà, c'est très important.
Tout à fait. Petit billet d'humour par Gérard.
Oui, un petit peu d'humour. Je me suis renseigné comme ça, j'ai vu que le mot stage venait du mot latin stagium, qui veut dire séjour. Donc, moi, séjour, ça me fait penser à salle de séjour, séjour à la campagne, séjour à la mer, d'où détente. Et je pense que certains élèves ont bien compris l'étymologie de ce mot, détente.
sans doute.
Alors, Sylvie, peux-tu nous présenter le thème du mois ?
Bien sûr. Donc, simplement pour rappel, hein, une émission sur la recherche d'un stage en troisième ou en bac pro avait été diffusée en mars 2021. Nous nous étions penchés sur la difficulté de trouver un stage. Pour certains, c'était un vrai parcours du combattant. On avait abordé la démotivation pour la recherche d'un stage, la satisfaction lorsque celui-ci correspondait aux attentes du jeune, la désillusion et déception pour d'autres. Depuis, les ressentis des jeunes a sans doute changé, mais la question que nous nous posons aujourd'hui, sont-ils bien préparés ou épaulés pour entreprendre cette recherche de stage? Sont-ils, tout du moins, motivés pour cela? Alors, on va commencer par Gérard. Tu as souvent, toi, été dans les collèges, hein, où tu rencontres beaucoup de collégiens. En règle générale, comment intervenir auprès des jeunes pour capter leur attention sur un sujet tel que le stage? Parce que je pense que ce n'est pas un sujet qu'ils aiment trop aborder.
Mais là, je ferais quand même une différence entre deux genres d'élèves. D'un côté, les SECPA, et de l'autre, les élèves qui ne sont pas SECPA, évidemment. Pourquoi ? Parce que les SECPA sont dans des cours où on leur apprend le bois, la cuisine, etc. Et ils se sentent un petit peu...
Plus investis, peut-être ?
Investis pour la recherche d'un stage. Par contre, les collégiens normaux, en quatrième, troisième... Bon, troisième, ils sont obligés de faire un stage, donc ils sont obligés de très vite essayer d'en trouver un. Mais en quatrième, quand je leur pose la question, est-ce que vous avez déjà pensé à votre stage de troisième ? Il serait peut-être bon moment d'y penser. Est-ce que vous voulez faire un effort pour essayer ? Sur une classe de 30 élèves, il y en a peut-être la dernière fois 4-5 qui m'ont répondu qu'ils avaient trouvé leur stage de troisième, tant qu'aux autres m'ont dit on a le temps.
Voilà, voilà, c'est ça.
On a le temps.
Ben, peut-être aussi au niveau des SECPA, dès la troisième, souvent ils partent effectivement en alternance, ils partent tout de suite vers un métier peut-être aussi.
Mais ils ont leur stage dès la quatrième.
Dès la quatrième,
et quasiment tous en ont un.
Voilà.
Pas forcément dans le métier qu'ils ont choisi. D'ailleurs, quand on va écouter tout à l'heure
l'interview,
il y en a certains qui ils sont complètement à côté, ben, c'est sûr, mais d'autres... ils y pensent réellement.
Oui, parce que je pensais effectivement que les élèves qui sont en quatrième, troisième général se disent oh, bon, on a le temps peut-être de trouver un métier, puisque ces jeunes veulent aller plutôt vers un bac. Donc ils se disent peut-être bon, j'ai encore 3 ans pour
oui,
réfléchir.
Oui, mais tout dépend aussi dans les collèges comment leur sont présentés le stage.
Oui, mais ça on verra après plus amplement.
J'en parle pas tout de suite.
Pas
mais
tout de suite,
la façon dont c'est présenté, c'est. D'un collège à l'autre, c'est complètement
différent. Oui, parce que là, ils n'ont pas de protocole. Je veux dire, les professeurs, ils font selon leurs envies.
C'est le béaba.
Le béaba.
Il doit y avoir 5 ou 6 lignes de dire. On les dit aux élèves. Puis après, chaque élève fait ce qu'il a envie. Hein.
Et ça, c'est le professeur principal qui gère ça ou...
Ben, certains collèges, c'est le professeur principal. Dans d'autres collèges, il y a un professeur qui est là pour parler stage. Mais bon... Encore faut-il que ce professeur, entre guillemets, soit intéressé par ce qu'il fait.
Mais dans le programme scolaire, est-ce qu'il y a des heures données au professeur pour parler du stage ?
Non,
donc c'est
non.
Au bon vouloir, en fin de compte. Au bon
bien
vouloir
sûr.
Des profs,
oui.
En fin de compte. De prendre plus ou moins de temps sur leur programme.
C'est pour ça que nous,
programme.
Avec Énergie Jeune, on a quand même, à partir de la troisième, on fait, avant Noël, des sessions stage. On n'en fait qu'une, session stage.
Qui dure combien de temps ?
Ben, 3 heures.
3 heures, d'accord.
Et voilà, si tu veux, à partir de la quatrième, j'ai complètement abandonné le programme Énergie Jeune tel qu'il est et je pars uniquement sur le stage.
D'accord.
Donc je fais 3 sessions d'une heure sur le stage, sur les cours de quatrième.
Ok. Marie, tu reçois, toi, des collégiens pour diverses raisons. Peux-tu nous confier le secret que tu as, n'est-ce pas, pour obtenir leur confiance, puis leur faire comprendre que l'avenir se joue dès la quatrième ?
Alors, quand j'en avais en tant que prof, l'idée, c'était surtout de leur faire comprendre qu'en collège, c'est une acquisition générale qui est importante. Hein, c'est en train de revenir à la mode, donc tant mieux. C'est-à-dire le français et les maths. Alors, les maths pour savoir compter hein, quand on dépense de l'argent et le français pour savoir écrire quand on a la nécessité d'écrire, dont par exemple l'administration. C'est des choses auxquelles tout le monde devra passer, ou presque, sauf quelques cas d'exception. Donc, pour les collégiens, moi, j'avais toujours considéré que c'était des jeunes en devenir. Donc, je me suis toujours adressée aux jeunes en considérant que c'est des futurs adultes. Donc j'ai toujours eu des respects et j'ai redemandé la même chose en retour. Donc ça se passait correctement puisque c'était comme ça que je fonctionnais. Pour ce qui est du stage en général, moi j'ai eu les deux casquettes. Hein. Donc j'ai été du côté prof où j'allais suivre des stagiaires et voir comment ça s'était passé en me déplaçant, si ça se passait bien, s'ils étaient motivés, les motiver, puisque l'objectif c'est aussi de les rendre en compétence par rapport à ceux qui ont bien voulu les accueillir. Mais j'ai également eu l'autre casquette depuis 2016, puisque je suis accueillante, on en parlait tout à l'heure, toi aussi tu as accueilli deux stagiaires, je suis aussi accueillante de stagiaires, et depuis 2016, même en période Covid, puisque j'écoutais ton émission sur les stages en période Covid, eh bien justement, n'ayant pas d'offres, beaucoup sont tournés vers moi. Et donc j'ai accueilli depuis l'ouverture de ma salle en septembre 2016, eh bien sur la croisée des possibles, j'ai accueilli 10 stagiaires. Et là, cette année 2022, comme toi, j'ai eu personne.
T'en as eu personne.
Désespéré, mais c'est pas grave. Avec du bon et du moins bon. En général, mon idée, et on en parlait aussi, c'était de suivre après ce qu'ils devenaient. Donc via les réseaux sociaux. Donc plus ils se motivent, alors les réseaux sociaux, rien d'intime, hein, c'est du professionnel, donc c'est LinkedIn de préférence. Par défaut, c'est Facebook ou Instagram, mais pas trop, puisque moi, je travaille qu'en professionnel, je ne suis pas intéressée par le reste. Donc ça permet, grâce à ça, d'avoir un bon relationnel avec eux. Et certains, on se suit toujours mutuellement. Alors là, ce sont évidemment des stages post-bac hein, que j'avais, puisque je suis seule sur la structure, et qu'en conséquence, d'avoir un mineur, ce qui m'est arrivé une fois par accident, parce que ça n'avait pas été expliqué clairement, je crois que c'était un majeur, donc c'était un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas grave.
C'était plus compliqué, pourquoi
Parce qu'un mineur, j'étais prof, donc je sais comment ça fonctionne d'être prof. Donc on n'a normalement pas l'autorisation presque d'être seul avec un mineur. C'est une évidence, surtout si ce n'est pas le vôtre. Donc quand j'ai compris qu'il y avait Maldon là-dessus, j'ai dit bon, c'est pas grave, on va travailler à moitié en distanciel, donc vous resterez chez vous et on va juste signer les papiers, mais on travaillera en distanciel essentiellement. Et sur certaines réunions où il y avait du professionnel, vous pourrez être présent, comme ça, c'est adulte partagé, entre guillemets. Donc, il n'y avait pas d'incidence. Mais c'est vrai qu'à la base, le problème aussi, quand on enseigne comme quand on est accueillant au niveau d'un stage, c'est que, surtout des élèves en dessous bac, mineurs officiellement, donc en dessous de 18 ans, on est censé ne jamais être seul avec eux. Non, il ne faut pas l'oublier. Alors, ce n'est pas parce qu'il va se passer des choses, hein, c'est simplement les choses qui peuvent se passer sont des deux côtés. On peut avoir un jeune qui est l'esprit un peu mal tourné, qui va s'inventer des trucs qui n'ont pas lieu. Et puis, on peut avoir, au contraire, des adultes. Voilà. Donc, c'est vraiment très important de savoir l'âge du jeune, de savoir comment il peut être encadré. Il y en a qui me parlaient de visite. C'est très important, en effet, d'être là pour leur dire de s'engager, de s'investir, mais de savoir garder leur distance. C'est le principe même dans le professionnel. Donc voilà, je ne sais pas si je peux dire autre chose.
Oui. Et quand tu étais professeur, donc il y a toujours une convention entre donc le collège et la société hein, où le stage va se faire. Est-ce que quel contact tu as eu avec justement
l'établissement
non pas avec l'établissement, mais plutôt avec la société qui le maître de stage, par exemple.
Alors, ce qui est important, la convention, ce que les parents ne réalisent pas toujours, ni les jeunes, c'est qu'une convention de stage, c'est très, très, très important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le verrou qui va sécuriser la mise en place du stage, puisque derrière se cache l'assurance, assurance bipartie, donc du côté de la société, mais également du côté du jeune qui est couvert par son établissement, puisque ça se fait sur des horaires normalement, quoi, sur des dates, où normalement il serait en scolarité. Donc ça, c'est très important. Après, la relation, quand j'étais prof, en tous les cas, c'était simplement qu'on me demandait de me déplacer sur le lieu, de vérifier que tout allait bien et que la personne était présente, hein, le jeune. Ça, c'est un élément important. Et également, avoir un échange avec celui qui le chapeautait, le tuteur, ou celle, pour savoir si ça se déroulait bien et s'il n'y avait pas eu d'accroc. Parce que c'est le principe, c'est des stages de courte durée. Si on parle du stage 3e, donc c'est des stages de courte durée. C'est simplement savoir si ça s'est bien passé. En fait, si le savoir-être est acquis. Le savoir-faire n'existe pas, là. Ouais. C'est que du savoir-être si le savoir-être se met en place. Et donc, à partir du moment où le savoir-être se met en place, de l'autre côté, on pense que le jeune va commencer à être en observance et en implication sur ce qu'on lui demandera plus tard en entreprise. Et donc, normalement, ça devrait arriver à faire évoluer la mentalité du jeune, dans le sens comment je vais m'insérer dans le monde du travail, et de l'autre côté, du côté de celui qui l'apprend en tant que stagiaire, se dire qu'est-ce que m'a apporté ce jeune. Les petits tilts, vous savez, comme le Schweppes, les petites bulles qui vont donner de la nouveauté dans une entreprise et qui vont donner le temps de sa présence, un autre regard, même c'était des magasins de vêtements, c'était des magasins de chaussures, des esthéticiennes, d'autres choses. Leur regard est différent.
Oui, mais c'est pour ça que les stages, on leur dit évitez les stages avec papa-maman.
C'est ça, tout
parce
à fait.
C'est pas bon, quoi. C'est négatif. Quoi.
C'est négatif, tout à fait.
C'est ce qui est en majorité.
Alors malheureusement, oui, parce que c'est ce que j'ai eu là, mes retours, on a cherché partout. Alors sur ce, il y a d'autres possibles, mais les parents hésitent à faire la démarche. Là, j'ai eu le cas, la jeune fille voulait absolument faire dans l'esthétique. Et donc, la maman, tout simplement, est allée faire la démarche auprès des gens qui sont sur son secteur et qui pourraient l'accepter. Et ça s'est fait. Donc, parfois, c'est aussi le fait de faire la démarche. Mais avant, il faut bien s'imaginer qu'il faut avoir motivé le jeune pour qu'il ait le savoir-être qu'il va falloir. Parce que il faut que le jeune se comporte correctement dans le cadre du stage. Là, j'ai une dame qui m'a raconté que dans le cadre d'une agence immobilière, ils avaient accepté un stagiaire. Le stagiaire s'est mis à je ne sais plus comment on dit là, jouer avec son téléphone.
Son téléphone.
Voilà, jouer avec son téléphone. Et pendant que la dame était en train de lui expliquer ce que c'était que la comptabilité ou des choses comme ça, la dame s'est dit, plus jamais je vais avoir ça. Parce que moi, je prends du temps, je prends sur mon temps de travail avec la consigne patronale de l'accepter. Mais pendant ce temps-là, j'ai l'impression d'avoir servi à rien.
Bien sûr.
Et donc, il disait, moi, plus jamais, je ne veux pas avoir... Et c'est bête parce que ça crée un précédent. C'est-à-dire qu'un mauvais stagiaire crée un mauvais précédent. Donc,
Après, il y a le refus de reprendre d'autres stagiaires.
Exactement. Et c'est bête parce que moi, j'ai eu le cas. Hein, j'ai eu des mauvais stagiaires, mais ce n'est pas pour autant que je me suis arrêtée. Mais parce que j'ai ce côté pédagogue et puis empathique où je veux absolument rester ouverte à d'autres. Mais c'est vrai que ça peut en bloquer certains parce que c'est un ralenti. Et les petites bulles de Schweppes, si on ne les voit pas, on ne réalise pas ce qu'elles vous apportent.
Mais il y a plein de présentations. Moi, j'ai un cas aussi où un élève il faisait un stage en boulangerie et on lui a demandé de porter une charlotte. Mais on ne lui a pas dit que la charlotte...
Pourquoi ça
si bien que
indispensable au niveau
dès qu'on
hygiène,
lui a dit le stagiaire est parti.
Il est parti, tout à fait.
Il n'a pas voulu revenir. Il a cru qu'on se moquait de lui. Tout ça, pourquoi? Parce qu'au départ, tout n'est pas bien expliqué.
Oui, c'est un manque d'explication, tout à fait.
Est-ce qu'ils connaissent vraiment la nature de ce stage aussi?
Parfois, ils y vont, on l'a dit tout à l'heure, certains, ils y vont cooptés par les parents. C'est la proximité qui fait qu'on choisit le stage. C'est des choses qui jouent. Moi, je sais que mes enfants, je ne me suis pas posé la question de me dire, ils vont aller loin. Ils étaient habitués à prendre le bus. Et je leur ai dit, vous allez aller loin et vous y allez tout seul. Parce que moi, je travaillais, comme beaucoup de parents. Et j'ai dit, non, moi, je ne peux pas vous emmener. Vous irez tout seul. Et ils l'ont fait, mais... C'est vrai que c'est un peu traumatisant. Quoi. On change de bus, on est obligé de faire d'autres choses.
Il y a beaucoup de refus des parents pour que les enfants s'éloignent.
Tout à fait.
Moi, ils étaient petits, c'était du troisième. Donc, ils devaient prendre le bus, ils devaient changer de bus dans une zone qu'ils ne connaissaient pas. J'en avais dit, on fait l'essai ensemble. Ils m'ont dit non, on va le faire. Et ils étaient en volonté d'y aller. Donc, c'est aussi la façon d'impulser aux parents... l'idée qu'on peut se détacher du cordon ombilical des parents, parent-enfant, qui ne va pas nécessairement lui arriver des choses, qu'il faut anticiper ça. Et que grâce à ça, ils vont s'émanciper aussi.
Devenir peut-être un peu plus autonomes.
Autonomes, parce que plus tard, quand ils seront vieux, ils n'auront pas envie d'avoir un tanguy à la maison.
Alors justement, tu parlais des parents. Alors parents enseignants, nous tenons trop souvent à leur faire un peu la morale. Fais pas ci, fais pas ça. Mais sont-ils sensibles au discours sur les critères de réussite, l'assiduité, la persévérance, la ponctualité, l'organisation du travail, le respect, la motivation, l'enthousiasme? Qu'en pensez-vous?
Ben, je pense que certains parents ne sont pas du tout au courant de ce que les enfants ont envie de faire. Parce que moi, quand je leur demande en quatrième, est-ce que vous avez parlé à vos parents de ce que vous allez faire plus tard ?
Ben, je pense que les parents pensent aussi que c'est un petit peu trop tôt pour parler de métier aussi,
ben,
peut-être.
Oui, mais je pense qu'en quatrième, c'est très très important.
Ah, parce mais que moi aussi, je trouve,
c'est,
oui.
C'est là où est le déclic.
Et c'est ça. Et... Oui, mais les parents souvent disent, oh ben non, on verra le déclic en troisième.
Alors, j'ai pas mal d'élèves qui me disent, ben oui, mais enfin, moi, j'ai mon père qui m'a dit, c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras jamais. J'ai dit, c'est déjà pas mal de la part de ton père, montre-lui que tu es capable de le faire. Et puis voilà, et puis d'autres qui disent, oh ben non, non, on n'en parle pas. Puis, certains ont peur de dire à leurs parents, je veux faire ça.
Je veux faire ça, oui. Ah, oui. Mais ils ont peur que ce soit.
Même déjà entre eux, dans une classe, quand on fait le tour de la classe, on leur dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? On voit que certains rougissent et tout, et ils n'osent pas dire. Mais je leur dis, mais de toute façon, il n'y a pas de saut métier, vas-y, dis-le. Bah, devant la classe, ils ne veulent pas le dire.
Alors moi, j'avais eu ça hein, sur une classe, justement, je ne les avais pas longtemps. Et j'avais un rôle de prof principal temporaire. Et donc, j'en ai profité pour poser la question. Il y en a un qui a lâché, je voudrais être pâtissier. Tout le monde s'est mis à rire.
Oui,
c'était une classe Europe 3e. Et ça m'a fait doucement... Alors, aussi sec, j'ai interrompu tout le monde. Je lui ai dit, ben, tu choisis un très beau métier. Je venais d'aller au CFA, où j'avais rencontré CFA de Compiègne, où j'avais rencontré boulanger, pâtissier, et où ils montraient que le grade montait, c'est-à-dire boulanger d'abord, pâtissier ensuite, chocolatier en dernier, si on a voilà, la compétence, le niveau, l'implication. Et donc j'ai tout de suite dit, bah, tu as choisi le meilleur des métiers, puisque là, tu pourras aller très loin. Et là, ça les a tous mais calmés. Mais... Et ça, je pense qu'il n'y a pas assez de profs qui, de temps en temps, sont curieux, alors même sans se déplacer. Hein, je veux dire, c'est lourd, hein, la charge de prof. Mais simplement de dire que le pâtissier chez qui on est content d'aller, c'est un cadeau de l'avoir à côté de soi.
C'est un beau métier avec des débouchés, en plus.
Mais c'est parce qu'en très peu de temps, très peu souvent, on met en avant tous les métiers manuels. Hein, de toute façon, dans l'éducation, à tous les points de vue, même à partir de la 4e, 3e, au collège, on l'évoque très
parce
peu.
Qu'on est, parce que, en fait, alors moi, je n'étais pas dans ce cas de figure, parce que j'enseigne dans l'enseignement privé, tant pis. En enseignement privé, ben, on est content de vous avoir, déjà. Et on va du collège au lycée, et donc, par exemple, moi, la spécialité que j'avais à ST2S m'a ouvert sur le technique. Bon. Le fait d'être comme ça, ça vous force à avoir une ouverture d'esprit. J'avais même les maths en mineur. On a le droit d'avoir normalement des mineurs par rapport à la matière principale. Mais en France, par exemple, ça doit être absolument une mineure. Hein. Si ce n'est pas une mineure, oh là là, ce n'est pas possible. Hein. En Allemagne, ce n'est pas le cas. On a deux matières. On peut être professeur d'histoire géo et professeur d'autres choses. On peut être de maths et professeur de physique. On peut être science de la vie de la Terre et de maths. Et en France, on nous ferme, on nous bloque, on devient limité dans la surface entre la 6e et la 3e. Et on est limité ensuite. On devient des meilleurs. Déjà, on nous cloisonne. On devient les meilleurs quand on est les lycées. C'est-à-dire que normalement, on doit avoir la grecque. Bon, ce n'est pas toujours vrai. Hein. Mais bon, normalement, on doit avoir la grecque.
C'est souhaité.
Maintenant, c'est rêvé. Hein. Et puis, peut-être pas rêver que ça, si rêver que ça, parce que normalement, c'est moins d'heures. Donc, comme on manque de profs, normalement. Donc, oui, parce qu'on est plus compétents, normalement. Et donc globalement, la 6e à la 3e, hein, c'est vrai que c'est des gens qui ont le CAPES. Et en plus, il y a une scission qui est faite. Donc, alors, CAPES ou pas CAPES. Hein. Mais bon, globalement, on crée une scission, alors que si, aussi bien en collège qu'en lycée, les profs se mélangeaient plus, je pense que... Oui, je sais, c'est un doux rêve.
Oui,
et bien, ça créerait quelque chose d'assez sympa.
Mais pas qu'en lycée, hein.
Oui, et en
dans
lycée,
tout le, dans ce tout que le parcours fait. Scolaire, les profs se connaissent très peu.
Oui, alors moi j'étais, ouais, j'étais un cas bizarre parce que je côtoyais aussi bien les profs de maths, de physique,
oui,
de,
général,
de
ça,
français.
Voilà, les profs de maths restaient avec les profs de maths, les profs d'histoire avec les profs
de
d'histoire.
De français,
hein, voilà.
De philo.
Dans certaines matières, il y a vraiment des clans. Hein.
J'étais une anomalie.
Moi, je le connais.
Ah tiens, Jackie, puisque tu veux la parole, peux-tu rappeler à quoi sert un stage d'observation ou de découverte et quels en sont les bénéfices pour les jeunes ?
Alors un stage de formation, oui, ce stage de 3e, donc c'est un stage qui est pour les élèves en 3e, c'est un stage qui est obligatoire. C'est un stage qui est pour une période maximum de 5 jours sur un statut d'observateur. Et il ne remplace aucun salarié. Et ça, c'est quelque chose à vraiment à faire part d'important dans les entreprises, enfin dans tous les endroits où l'élève va. Il ne doit remplacer aucun salarié. Donc après, bah, pour ce qui pourrait être les avantages, hein, donc c'est en contact avec le premier contact avec le monde de l'entreprise. donc de toutes les entreprises possibles, hein, aussi bien les petites, les moyennes, les grandes entreprises. Ça permet de voir aussi les règles de l'entreprise, que le jeune arrive dans un autre endroit que l'endroit éducatif, hein, donc un endroit professionnel, d'évoluer dans différents services. Hein, quand c'est des grandes entreprises, le jeune peut tourner, peut aller pendant les 5 jours évoluer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Enfin, moi, j'étais en charge de... Et j'ai eu des jeunes qui ont fait en troisième, et j'ai eu la charge pendant quoi, 1 ou 2 journées, et deux jeunes qui tournaient dans les différents services. Donc et de connaître aussi, justement, par rapport à ces services-là, de connaître si c'est une grande entreprise, de connaître que font chaque service, de pouvoir observer chaque service, et de voir l'organisation. Donc ça, c'est tout un peu les... Et puis de pouvoir aussi distinguer entre... quand on disait par rapport aux parents, de pouvoir aussi distinguer autre chose par rapport au monde professionnel. Parce que si des parents sont dans une entreprise, l'idéal, ce serait que le jeune aille dans autre chose que dans leur entreprise, de leurs parents. De pouvoir voir autre chose et puis pouvoir faire justement, pouvoir comparer et puis pouvoir aussi découvrir un métier. Et alors l'idéal, ce serait d'être dans le métier où, ce qu'on disait tout à l'heure, l'idéal, ce serait d'être dans un métier que qui est pour objectif. Ça, c'est l'idéal.
Mais des fois, le stage permet à un élève de se dire, tiens, moi, je n'avais pas pensé à ce métier-là. Ça pourrait être intéressant.
C'est intéressant. Je regarde Gérard, parce que quand on avait fait l'émission là, en mars 2020, on avait invité Robert Fidanza, que tu connais très bien, d'Énergie Jeune. C'est toi aujourd'hui qui prends sa place. Mais il avait dit quelque chose concernant le stage d'observation, statut d'observateur. Lui, il avait dit déjà, c'est pas bien de dire que c'est un stage d'observation parce que le jeune se dit, j'observe. Et lui, il avait préféré le terme stage de découverte.
Oui, de découverte, oui.
Hein, ce qui permet peut-être aux jeunes découvertes d'être un peu plus curieux, poser des questions.
Voilà. Actif.
Voilà, plus actif. Sinon, c'est passif.
C'est un peu complexe. Alors, moi, je me projette du côté des entreprises parce que moi, j'en ai eu en charge. Et c'est vrai que quand un jeune arrive dans un service, c'est compliqué. C'est compliqué pour la personne qui est en face, qui en a la charge de savoir quoi lui faire faire et quoi lui montrer.
Alors Gérard, avec Frédéric, vous êtes parti à Senlis. Peux-tu nous présenter l'interview effectuée auprès des jeunes ou est-ce que tu préfères en parler après ?
J'en parlerai après.
D'accord.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. C'est sur votre stage. Première question, qui a trouvé votre stage ?
Alors moi, c'est ma directrice, Madame Frémaux, du collège La Fontaine des Prés, qui a cherché pour moi un stage.
Qui a trouvé ton stage ? C'est toi ou c'est l'école ?
C'est moi.
Comment t'as fait ?
Je suis allé voir des boulangeries et je leur ai demandé s'ils prenaient des stages.
D'accord.
Moi, c'est mon père qui a trouvé mon stage.
Et moi, c'est ma sœur qui a trouvé mon stage.
Votre stage correspond au métier que vous voulez faire plus tard ?
Alors, moi, c'est littéralement tout le contraire de ce que je voulais faire plus tard. Car moi, ce que je voulais faire plus tard, c'était Reaper en tant qu'éboueur. Ça a changé totalement tout ce que je voulais faire.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Tu sais pas ?
Je sais pas encore.
Bon, d'accord.
Je veux faire cuisinier.
Et alors, ton stage correspondait à ce que tu voulais faire ?
Oui.
Oui, moi, mon stage a correspondu à ce que je voulais faire.
Et qu'est-ce que tu as retenu de ton stage ?
De s'occuper des outils. Comment trouver des animations et tout.
Qu'est-ce que tu as retenu de ton stage ?
Pas grand-chose. Hein. J'ai eu 3 heures de pause. J'ai eu 2 heures pour manger. Au lieu de finir à 15h30, je suis venu à 14h. J'ai pas retenu grand-chose. Hein.
Bon.
Alors, moi, ce que j'ai retenu de mon stage, c'est qu'on boit beaucoup de café dans un salle de repos. Que c'est toujours assez énergique. Du moins, que quand on peut arriver le matin assez tôt, je peux déjà commencer à faire des petites activités. C'est plutôt un bon stage.
Et comment vous a présenté à l'école le fait que vous deviez faire un stage ? Comment vous présente ça, votre stage ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez quelqu'un ici au collège qui vient vous dire, voilà, vous avez un stage à faire, voilà ce que vous devez faire ?
Moi, personnellement, on m'avait dit comme quoi je devais aller au collège Albéric Magnard. À la suite, un prof m'attendait. On m'a pas trop après expliqué qu'est-ce que je devais faire à la suite.
Donc on vous a pas dit comment vous présenter au stage, quels sont les outils que vous deviez emmener, tout ça ?
Au stage, il fallait bien s'habiller, bien se tenir.
Et vous avez un rapport de stage à faire, à donner ?
Oui.
Et qui vous le prépare alors ?
Moi, je l'ai fait moi-même.
Tu t'es fait aider par tes parents ou par quelqu'un, non ? Non, du tout ?
ma belle-mère.
Comment t'as préparé ton rapport de stage ?
Personnellement, je ne l'ai pas vraiment trop préparé. J'étais plutôt bien concentré au stage que je devais faire. Du coup, j'avais totalement oublié de remplir les rapports et tout comme ça.
D'accord.
Du coup, je l'avais rempli à la dernière minute.
Mon, c'est pas un dossier de stage.
Comment tu as fait ton rapport de stage ?
Oui, mon rapport, j'ai été aidé par mon père et ma belle-mère.
D'accord.
Et après, voilà. Ils m'ont aidé à faire à mettre les fausses sur l'ordinateur. J'étais un peu fatigué, du coup mon père il a un peu rempli la moitié de mon rapport de stage.
D'accord, et toi ?
Vu que je dormais.
C'est vrai, la question déjà.
Comment tu as fait ton rapport de stage ? Quelqu'un t'a aidé ou...
Ah non, j'ai fait tout seul.
Tu l'as fait tout seul ? Mais maintenant, une dernière question. Vous seriez prêt pour l'année prochaine à refaire un nouveau stage ?
Ouais.
Oui.
Et comment, dans la même, le même stage ou un autre ?
Un autre.
Un autre ?
Moi, ce serait littéralement le même stage avec les mêmes personnes.
D'accord.
Ah, moi, c'est entièrement vrai que je vais continuer dedans. Après, rien au monde, je change.
Moi, je vais faire pareil que le même stage.
D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup.
De rien, monsieur.
De rien.
Donc voilà, on a bien ri en écoutant, n'est-ce pas ? Est-ce que tu peux nous donner des infos, en fin de compte, sur la façon que tu vas aborder donc, ce sujet, mais aussi bien avec les jeunes qu'avec les professeurs, Gérard ?
Là, si tu veux, on était en train, avec Frédéric, de faire les interviews pour compteur de métier à la Fontaine des Prés de Senlis, donc j'en ai profité. Moi, je te dirais franchement que j'ai bien sélectionné les quatre élèves que je voulais interviewer, parce que pendant qu'on faisait des tests sur l'émission, j'ai vu leur personnalité, je me suis dit, ça devrait bien être fait, et puis voilà le résultat, quoi. Donc on s'aperçoit que certains stages, s'il n'y a pas papa, maman, il n'y a rien, quoi.
Si, il n'y a que le petit jeune qui s'est débrouillé, parce qu'il voulait faire un stage en boulangerie. Voilà. Et même au niveau du rapport de stage, on voit bien que ça leur passe au-dessus. Hein.
Oui, oui, mais non, mais on va en parler tout à l'heure, il n'y a pas la préparation à la base, quoi.
C'est ça, tout à fait. Toi, de ton côté, Marie, avec l'association Objectif Réussir, quelle est ta marque de fabrique, en fin de compte, quand tu vois ces jeunes qui ne trouvent pas de stage, tu les aides comment, en fin de compte ?
Alors moi, déjà, ça, c'est malheureusement pas l'association Objectif Réussir, mais c'est la Croisée des Possibles qui a aidé en prenant des stagiaires.
Ah, c'est la Croisée, d'accord. Okay,
mais des majeurs, mais donc pour des mineurs, puisque là, tu reparles de du côté Objectif Réussir, surtout quand j'étais enseignante, le côté recherche de stage, pour les échos que j'ai eus avec la réunion du 16 janvier que j'ai faite, c'est en effet les parents qui recherchent beaucoup. L'aide de l'établissement est présente également, et c'est aussi malheureusement une des raisons qui a fait que le stage qui avant était obligatoire de seconde a plus ou moins sauté, puisque ça a nécessité, puisque c'était obligatoire, l'obligation pour l'établissement, pour tous ceux qui n'avaient pas trouvé de stage, d'en chercher un, ce qui est un temps à consacrer énorme. Et donc, ça a été un petit peu abandonné. Alors, je crois que ça reste quand même une possibilité, ce qui est quand même un gros cadeau que fait l'éducation nationale. C'est-à-dire que si vraiment des parents se mobilisent, eh bien, ils peuvent chercher un stage pour leur jeune en seconde. Mais il faut aussi que le jeune soit motivé, hein, ça, c'est pas négligeable. Par contre, ça n'est plus obligatoire et donc de fait, il n'y a plus de rapport de stage obligatoire, il n'y a plus non plus l'obligation de le présenter, parce que moi j'ai fait des examens de rapport de stage où je confrontais le jeune à sa restitution, donc ce qui était assez constructif et instructif, et pour lui, du moins je l'espère, et pour moi, quoi, il ou elle. Par contre, pour revenir sur le rapport de stage, j'ai eu le cas de figure d'un jeune qui était plus préoccupé pendant tout son stage, alors qu'il est en post-bac, à écrire que son rapport de stage, plutôt que de contribuer efficacement au travail de l'entreprise. Alors, puisque c'est donc pour le stage de troisième, c'est simplement un élément complémentaire hein, dans le parcours d'éducation nationale. Pour le stage post-bac, c'est impératif qu'il ait fait un rapport de stage correct. Mais par contre, ce qui zappe un peu, c'est qu'il y a aussi l'avis et les commentaires qui peuvent être faits par l'établissement, l'employeur, en tout cas celui qui l'a sous ses ordres. Donc ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger, même si c'est le savoir-être qui prime sur le savoir-faire.
On va écouter l'intermède musical.
Je suis le vide, je suis le saut, je suis l'envol, je suis la rive. Et s'il le faut, je serai l'idole de ce qui m'arrive. Pour donner de la force à mes traits, les défauts comme les qualités, je vais les aimer. Les accepter, les amadouer, les assumer, voilà. Je n'ai pas de plus beau profil, maintenant c'est de face ou de pile, mais c'est tout entier. Moi, je m'attendais pas à un moment qu'on me dise comment faire dans ce monde, car personne sait vraiment. Je m'attendais pas évidemment qu'on me dise comment faire en amour. Depuis que j'essaye d'en faire le tour, je cours à nos folies, nos rêves, nos chances, c'est l'heure de nos envies. J'en suis la somme et c'est moi seule qui est la solution. Je serai pas contre un petit peu d'aide pour la résolution. Mais sans juger l'autre, sinon on perd l'essentiel qu'on s'est dit qu'on cédait pour de bon. Je m'attendais pas à un moment qu'on me dise comment faire dans ce monde, car personne sait vraiment. Je m'attendais pas évidemment qu'on me dise comment faire en amour. Depuis que j'essaye d'en faire le tour, je cours à nos folies, nos rêves, nos chances. C'est l'heure de nos envies. Et qu'elle règne, qu'elle danse sur nos peurs, à nos folies, nos rêves, nos chances. C'est l'heure de nos envies. Qu'elle règne, qu'elle danse sur nos peurs. Peur de s'éteindre, de se tordre et de s'atteindre. Ce désordre là, c'est pas rien. C'est mon cœur tout entier, c'est le mien, prends-en soin. De faire bien, comme il faut, comme ils font, sans défaut, sans raison, pendant que j'entends du fond gronder nos folies, nos rêves, nos chances, c'est l'heure de nos envies, et qu'elles règnent, et qu'elles dansent sur nos peurs, à nos folies, nos rêves, nos chances, c'est l'heure.
Notre thème du jour, apprentissage et stage, que faire? Pour cela, nous recevons Marie Thomassin, présidente de l'association Objectif Réussir. Sylvie?
Oui. Alors le stage d'observation, on va dire de découverte, ce sera mieux, hein, comporte plusieurs étapes. Hein. Il y a une recherche sur le métier privilégié, voire les dérivés de celui-ci. Par exemple, effectivement, sur l'ONICEP, le jeune qui veut faire, admettons, tailleur de pierre, il peut aller voir les métiers qu'il y a sur le côté. Et on voit, il y a graveur, il y a staffeur ou stucateur. Bon, tout ça, ben, vous irez voir ce que c'est. Voilà. Donc c'est intéressant parce que automatiquement, bon, ça peut lui donner d'autres idées. Alors il faut aussi préparer une lettre de motivation à accompagné d'un CV. Il faut faire le rapport de stage qui comptera pour l'épreuve du brevet, mais qui déterminera aussi le choix des professeurs sur l'orientation des jeunes. Tout ceci pour se terminer par un oral au brevet. Nos jeunes sont-ils bien préparés face à tous ces obstacles? On va peut-être écouter l'interview de Gérard auprès d'une professeure du lycée La Fontaine des Prés à Senlis.
Bonjour Muriel.
Bonjour.
Je vais vous demander de vous présenter.
Je suis donc Muriel Nicache, je suis professeure de biotechnologie au collège La Fontaine des Prés à Senlis, et je suis tout particulièrement le professeur d'atelier HAS, hygiène, alimentation, service.
Donc la première question, c'est comment sont préparés les stages pour les élèves du collège?
Alors, les stages, il y a déjà 3 semaines de stage en quatrième, une semaine où vraiment ils sont là pour observer le milieu du travail, et après 2 semaines où ils cherchent un domaine qu'ils aimeraient bien. Puis après, en troisième, il y a 2 fois 3 semaines. Et là, vraiment, le domaine, il doit être plus défini. Ils ont le droit de changer de domaine sur les 2 stages afin de les aider dans leur orientation.
Et qui leur trouve le stage? C'est eux ou c'est à partir du collège?
On les laisse essayer de trouver le stage car ça les oblige à se présenter, à faire une lettre de motivation, à faire un curriculum vitae, ce qui leur sera obligatoire après pour trouver un emploi. Et après, si vraiment ils ont des difficultés. En quatrième, souvent, les parents les aident. C'est souvent grâce au milieu familial ou les relations qu'ils trouvent. Et puis après, ben, il faut qu'ils trouvent d'eux-mêmes. Et on a une petite liste.
D'accord. Alors, en général, le pourcentage, c'est combien de ceux qui trouvent eux-mêmes ?
Presque tous y arrivent. On les motive beaucoup. C'est quelque chose qu'on travaille dès le début de l'année. On leur donne les dates dès le début de l'année. Et puis, les deux, trois derniers, on les oriente. On leur donne une liste. Mais ils doivent y aller. C'est très rare, en fait, qu'on soit obligé d'accompagner l'élève dans des cas de figure très particulier, cela arrive qu'on les accompagne auprès de, bien sûr, d'entreprises avec qui on a l'habitude de travailler. On peut les accompagner et demander aux...
Et ils sont préparés comment ? On leur donne une liste de questions, on les prépare ?
On les prépare à se présenter, on leur explique la tenue professionnelle à avoir s'il en faut une. Si par exemple c'est en restauration en tant que serveur, il faut y aller bah, évidemment avec une petite chemise, la bonne présentation. On leur apprend à se présenter en faisant en mimant la situation comme du théâtre afin d'être prêt pour un entretien professionnel.
Et les rapports de stage, alors, à quoi ils servent et comment ils sont, évalués ?
Alors, les rapports de stage, ils sont essentiellement évalués par compétences et ils servent surtout à la rédaction de leur dossier de CFG, certificat de formation générale qu'ils passeront tous à la fin de la troisième, ou pour leur parcours à venir, ils ont un dossier à faire pour le DNB professionnel, qui est en troisième. Donc vraiment, les rapports de stage sont très importants, car sinon ils auront trop de mal après à écrire ces deux dossiers.
Et ils sont aidés par leurs professeurs pour l'établissement du rapport ?
Tout ça, on le fait ensemble. On leur explique le dossier avant de partir, vraiment en étape par étape. Et après, les dossiers sont corrigés individuellement. Il y a toujours un retour du sage pour savoir si cela leur a plu, si le métier était bien, s'ils resteraient dans ce domaine, les activités qu'ils ont fait. Il y a toujours un retour afin vraiment d'être prêts pour leur orientation en fin de troisième. C'est vraiment notre priorité. Ils vont dans le milieu professionnel.
D'accord. Eh bien, Muriel, je te remercie beaucoup.
Merci à vous.
Alors là, on voyait à un moment donné dans l'interview, la prof dit qu'il donne les dates de stage. Et il faut savoir que ces dates hein, sont données, c'est le choix hein, du collège. Et c'est souvent en janvier, février, qui est un moment plus propice pour les entreprises. Gérard, ça fait combien de temps que tu interviens au collège de Senlis ?
5 ans.
Ça fait 5 ans, donc tu connais très bien Madame Nikache. Donc quand tu interviens seule ou tu interviens et il y a toujours Madame Nikache avec toi ?
Non, quand on intervient, nous, c'est pour faire compteur de métier. Donc on est seul avec les élèves. Donc Madame Nikache, elle vient de temps en temps voir comment ça se passe. Mmh. Mais c'est pour faire compteur de métier. Et l'année dernière, si tu veux, en compteur de métier, au lieu de prendre des professionnels, on a demandé à 4 anciens élèves de la Fontaine des Prés, qui étaient maintenant dans le travail, quoi, de venir expliquer aux quatrièmes comment ils avaient fait, qu'est-ce que leur avait donné le stage, et pourquoi certains avaient complètement changé de métier. Donc on avait eu 4 jeunes qui étaient venus s'expliquer pour dire aux quatrièmes, voilà, moi j'étais parti sur telle branche, j'ai fait 2 stages et je suis parti ailleurs.
Et les élèves étaient peut-être plus sensibles, puisque c'était des jeunes qui parlaient aux jeunes, souvent.
Exactement.
Voilà. Oui. Tu peux nous parler un petit peu du compteur des métiers ?
Ben, compteur de métiers, ça fait déjà, quasiment une bonne dizaine d'années qu'on fait compteur de métiers. Et c'est parti sur le collège La Fontaine, à Crépy, avec Alain.
Avec Alain et Monique, non ?
Alain, Monique. Monique n'était pas là.
Elle n'était pas là. Alain. Parce que Monique a repris la même chose. Me semble-t-il, hein, compteur des métiers, mais sur des collèges dans le 78,
à Conflans-Sainte-Honorine, oui, c'est ça. Ça fait 2 ans, qu'elle a commencé ça, oui.
D'accord. Et donc, les compteurs de métiers, vous êtes à combien de métiers, à peu près
Une bonne trentaine de métiers.
Une bonne trentaine, oui. D'accord. Et on peut les retrouver sur
le site RVM. D'RVM, oui.
D'accord, très bien.
Mais enfin, ce qui était intéressant dans le compteur de métiers, c'est de voir que la plupart des professionnels qu'on a interviewés, ils sont tellement contents de parler de leur métier que certains élèves sont étonnés de voir que, par exemple, on a ici à Crépy, on avait un tapissier qu'on a interviewé. Il était tellement content de raconter ce qu'il faisait que certains ont dit, mais je comprends pas. Ben, on lui a dit, mais il aime son métier.
Mmh. Alors, c'était préparé comment ces émissions, compteurs des métiers ? Parce que c'est les élèves qui posent les questions. Donc,
c'est les élèves qui posent les questions et c'est eux qui les préparent, les questions.
D'accord, mais c'est eux qui choisissent le métier ou c'est le prof qui impose ?
Non, c'est eux qui choisissent leur métier.
D'accord.
Souvent, on fait ça avec un groupe maximum de 16 élèves, de telle manière qu'on ait 4 interviews avec 4 élèves.
D'accord.
Donc, les 4 élèves essayent de déterminer entre eux quel est le professionnel qu'ils veulent interviewer.
D'accord. Et tu interviens combien de fois dans l'année ?
Ben, on fait la Fontaine des Prés une fois. Là, cette année, Villers-Cotterêts, on ne le fait plus. On n'a pas eu de contact avec Villers-Cotterêts. Par contre, on fait la première fois avec le collège de B.
D'accord. Et toi, tu interviens comment pour parler des stages au niveau des élèves de 4e, parce que tu disais que c'était très important, effectivement,
quand
déjà...
Quand on fait compteur de métier, on ne parle pas stage.
Oui, bien sûr, c'est complètement
différent. Par contre, quand je fais avec Énergie Jeune dans les collèges 4e, le 4e, c'est uniquement par le métier et stage. Mais bon, on y va avec... On marche sur des œufs, hein, parce qu'on ne veut pas faire d'impair par rapport à ce que prépare le collège.
D'accord. Mais c'est pour ça que je demandais si tu travaillais peut-être un petit peu tes interventions avec Madame Nikache, par exemple. Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Là, à la Fontaine des Prés, on ne fait pas Énergie Jeune, donc on ne parle pas de...
D'accord, du tout, d'accord.
On ne parle pas stage.
D'accord, ok.
Par contre, dans les collèges, quand on parle stage, c'est certain, on voit à la tête du professeur qui encadre la classe qu'il ne faut pas continuer sur sujet, il vaut mieux partir parce qu'on voit tout de suite que ça ne plaît pas.
C'est pour ça que c'est peut-être une exception sur l'autre collège. L'autre collège où Mme Nikache
est,
c'est peut-être une exception.
C'est peut-être une exception, là.
C'est des SECPA, donc...
C'est plus particulier.
Est-ce que tu as posé la question aux élèves, est-ce qu'ils trouvent que 3 semaines de préparation en 4e sont suffisantes dans un premier temps pour rechercher un domaine qui leur plaît ?
C'est toujours pareil. Si l'élève, il sait ce qu'il veut faire, qu'il a vraiment envie de le faire, il va trouver son stage... Comme celui qui nous parlait, qui voulait être éboueur, lui sait très bien ce qu'il veut faire. Il était très content de son stage et, comme il dit, il va repartir là. Les gens sont prêts à l'accueillir parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Bon, le deuxième qui veut être cuisinier, qui n'a rien, nous l'a franchement dit, hein, il n'a rien tenu, il n'a rien fait.
C'est ça,
bon, c'est vraiment la personne, je ne sais pas s'il veut vraiment être cuisinier, mais il n'a rien fait dans son stage pour faire en sorte qu'on lui dise, bon, ben, t'es parfait, plus tard tu seras cuisinier, quoi. Mais c'est très difficile à apprécier. Hein.
Marie, toi, tu as des contacts avec les parents. Quelles sont leurs réactions face à la recherche de stage ? Est-ce qu'ils sont parfois plus impliqués que leurs enfants ou plus inquiets ?
Alors, impliqués pour certains, inquiets, bah, les mêmes, quoi, les mêmes ou d'autres un petit peu. Le fait est que de rechercher un stage, eh ben, c'est jamais quelque chose de facile. Hein. C'est un petit parcours du combattant. Il faut quand même y aller... comme disait monsieur, sur les œufs, parce que là aussi, c'est une démarche en direction d'un professionnel qu'on connaît, même si c'est au sein de l'entreprise. Il faudra que le jeune se comporte d'une certaine façon, puisque voilà, l'entreprise lui fait confiance. Et donc ça, c'est un élément qui est très important. Moi, ce que j'ai la réunion du 7 janvier m'a permis de faire un échange avec les parents a posteriori. Et donc, en effet, beaucoup recherchent le stage dans leur réseau élargi. Ils demandent aussi aux personnes d'être curieux au niveau des entreprises locales, hein, parce que d'aller à Pétaochenok pour chercher un stage, c'est une chose, mais il y a aussi des entreprises locales et, comme l'on disait, des similitudes sur des métiers qui les intéressent ou des formations qui les intéressent, c'est un élément important. Donc il faut se questionner d'abord et en amont, comme vous le disiez en parlant des 3 semaines de préparation, se questionner sur vraiment qu'est-ce qu'ils recherchent et puis d'élargir ensuite les champs pour que le stage soit trouvé et surtout impliquer le jeune pour qu'il soit curieux. Donc ça, c'est aussi bien les parents qui doivent le faire, et plus particulièrement les parents, et parfois des enseignants qui s'engagent particulièrement dans le domaine. Mais c'est jamais gagné. Comme monsieur parlait d'Avenir et d'Énergie Jeune, Avenir ABCD et Énergie Jeune, c'est vrai que la sensibilisation aux métiers et aux différentes propositions qui peuvent être faites sur le secteur, c'est un élément important. Parfois, on pourrait imaginer qu'on pourrait constituer une base de données de stage, hein, de gens qui ont été satisfaits des précédents stagiaires, malheureusement, parce que s'ils n'ont pas été, ben, c'est pas gagné qu'ils reviennent en disant oui, on veut reprendre un deuxième ou un nouveau. Mais c'est vrai que c'est un moyen aussi d'enrichir les potentiels pour un jeune de trouver un stage qui correspond à sa demande. Mais il ne faut pas imaginer que le stage, c'est un gâteau qu'on achète et que le jeune va avoir d'office son stage qui va lui tomber dessus. Quoi. C'est, voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Mais c'est très difficile de dire à un jeune, il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas. Si vous dites une question qui ne plaît pas, on va vous le dire.
C'est le regard des autres.
Mais surtout, n'hésitez pas. Et posez les questions que vous avez envie de poser. Parce que certains nous disent comme ça, bah oui, bah moi, la personne que j'ai devant moi, elle me fait un peu peur la première journée.
Là, c'est pas évident.
C'est pas évident, mais
ils
bon,
sont jeunes
c'est
encore,
un changement d'environnement
mais
aussi.
Ça. Mais ça vient aussi. Mais ça vient aussi. Moi, je vais peut-être dire quelque chose qui. Mais ça vient aussi de la classe.
Oui, tout à fait.
Parce que nous, quand on a énergie jeune, on a quelque chose à dire à un élève, on le fait se mettre debout, de venir parler devant la classe entière. Et là, ça les gêne. D'être debout devant toute la classe, ça les gêne. S'ils sont sur leur chaise et qu'ils ça prennent va. La parole, ça va. Mais dès qu'il s'agit de parler comme ça, comme s'ils étaient en public, ça les gêne.
Moi, mais ils ne sont pas préparés aussi.
Non, mais dès que je les ai, je leur dis, c'est bien, allez. Les oraux, vous allez en avoir de plus en plus, c'est le moment ou jamais de vous lancer. Mais c'est ça qui...
Ben, c'est le droit à l'erreur et c'est le jugement porté des jeunes.
C'est ça, tout à fait. Et puis alors, le regard des autres est terrible.
Le regard des autres, surtout.
Voilà. Voilà.
Jackie, billet d'humeur.
Oui. Le billet d'humeur, donc le stage de troisième est un moment d'observation dans l'entreprise, hein, c'est fait avant tout pour observer, de découverte aussi, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, pour moi, est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention à ne pas faire ainsi un stage par défaut, de pas utiliser, enfin, de pas avoir, hein, malheureusement, bon, on a aussi l'effet de voir aussi autre chose et puis après de pouvoir s'y retrouver dans les stages qu'il y aura. Mais il y a aussi une question à se poser. Est-ce que ce temps consacré à la recherche de ce stage n'impacte pas la scolarité en troisième pour les élèves et pour les professeurs ? Ce temps passé, parce que c'est quand même un moment de recherche, un moment de travail avec les professeurs pendant l'année scolaire,
voilà,
où il y a les brevets blancs, où il y a tout un tas de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça fait beaucoup dans cette année scolaire ?
Alors moi, je ne pense pas. Je considère que la motivation, c'est un élément primordial, en fait, dans la scolarité. Que la troisième, c'est un gros passage où beaucoup vont se dire « je vais quitter l'éducation nationale quoi, classique, bac général », que préconisent presque tous les professeurs de collège, parce que j'adhère pas du tout. Ou au contraire, je veux continuer parce que ça fera plaisir à mes parents. Ça, c'est aussi des cas de figure que j'ai vus. Mais l'idée, c'est quand même de se dire qu'il faut qu'ils aient derrière une motivation. Et la motivation, c'est justement le stage qui peut renforcer de « finalement, j'ai envie de continuer dans le bac général » ou « finalement, bah, en fait, je rêve de faire coiffeuse ou je rêve de faire boulanger-pâtissier et c'est mon avenir ». Moi, j'ai eu plus d'un cas où les professeurs de collège préconisaient la poursuite des études en bac général. Sur le dossier scolaire semblait correct. Or, il y a une transition entre la troisième et le lycée, quoi, qui fait qu'on est de plus en plus dans l'abstrait quand on part dans le bac général, alors qu'on part dans du concret si on fait de l'apprentissage ou du CFA ou des bacs professionnels ou même les bacs techniques. Mais les bacs techniques sont quand même dans le lycée général pour la plupart, donc il ne faut pas se méprendre. Mais globalement, moi, ce qui m'interpellait, et j'ai eu quelques cas de figure, c'est que des jeunes qui rêvaient de partir, par exemple, dans la boulangerie, qui en niveau 3e avaient ce qu'on considérait un niveau correct pour partir en bac général, se sont complètement détachés du bac général, donc ont quitté la seconde en cours d'année, ce qui fait quand même une déscolarisation et des jeunes qui auront peut-être en mission locale par défaut. Parce qu'en fait, ils avaient passé le cap des 16 ans. Et donc, le cap des 16 ans est très mal perçu au niveau de l'apprentissage. Donc, en fait, ils n'avaient plus l'accès au CFA pour faire ce dont ils rêvaient, c'est-à-dire la boulangerie, simplement parce que leurs parents, ayant entendu ce qu'ils avaient envie d'entendre, ce que je peux comprendre parfaitement, c'est-à-dire il peut continuer en bac général, ils ont entamé la démarche vers la seconde, sauf qu'ils avaient zappé un truc, c'est que le passage de la 16e année joue énormément pour l'accès à l'apprentissage au niveau des coûts et au niveau de la prise en charge, l'aide de l'État, quelque part.
Bien sûr.
Moi, je reviens un petit peu sur le billet d'humeur de Jackie. Je comprends la situation. C'est vrai que ce stage est partie intégrante de la troisième, puisque de toute façon, ils vont avoir le passage au brevet à l'oral sur leur stage. Mais en fin de compte, ce que tu voulais dire, c'est est-ce que au niveau du programme qui est toujours très serré, est-ce que effectivement, on prend réellement le temps de les préparer à ça
et
de,
tout à fait. Et là, est-ce qu'il ne serait pas, comme on disait tout à l'heure avec Gérard, est-ce que ce ne serait pas plutôt progressif de le faire déjà en quatrième, correctement en quatrième, et de faire l'évolution par rapport, entre ces deux années? Parce que le plus gros du travail, il est quand même fait en troisième.
En troisième, oui.
Mm-hmm. Mais l'orientation s'y prend bien trop tard en France.
Bien sûr.
Voilà, donne ton opinion là-dessus, Gérard, oui.
Moi, j'essaye avec Énergie Jeune de les pousser à partir dès la cinquième. Dès la cinquième, parler orientation.
Voilà, il y aurait déjà cinquième et quatrième, donc 2 ans de réflexion sur la recherche d'un métier.
Mais l'idée déjà, comme ça serait d'évoluer, d'augmenter cette chose-là sur les compteurs de métiers et d'avoir un lien régulier avec le monde de l'entreprise et le monde de la formation. Enfin, d'avoir un lien régulier avec tous les organismes professionnels de formation et d'entreprise régulièrement, déjà au niveau du collège, c'est sûr.
Alors, il existe beaucoup de sites pour aider à la recherche ou donner des conseils pour écrire le rapport. Comment se préparer à l'oral? On trouve des infos là aussi sur le site de l'éducation.gouv, sur ONICEP, CIDJ. Par exemple, l'ONICEP peut permettre aux jeunes de rechercher selon leur centre d'intérêt des métiers plus ou moins appropriés à leurs envies via de courtes vidéos. Ces sites qui sont une aubaine pour ces jeunes. On peut citer le site Mon Stage de 3e qui accompagne littéralement les jeunes. Les collégiens s'inscrivent, ils pourront lire des offres de stage, créer leur CV, donc ça facilite vraiment la tâche, déposer une offre de stage directement aux entreprises. Je suppose que peut-être que tu connais ces sites. Est-ce que tu as déjà travaillé en lien avec eux ou donné plus ou moins ces sites aux élèves, aux jeunes?
Alors, pour analyser, l'ONICEP, c'est un élément très intéressant pour donner des informations générales. Évidemment, les personnes qui vont vous présenter leur métier ou ce qu'ils font, ou le travail qu'ils font, ils ne vont présenter que le côté positif, hein, faut pas l'oublier. Ils oublieront peut-être la difficulté des études, les personnes qui n'ont pas pu poursuivre dans ces études-là. Puisque on réussit, donc c'est cohérent. Et d'autre part, ils oublieront également la pénibilité. Alors, je ne parle pas de pénibilité physique, je parle du stress, de beaucoup d'autres choses, qui va accompagner le travail. Parce que même s'il y a un gain, parce que parfois certains voient uniquement le gain, il y a obligatoirement des contraintes. On ne travaille pas comme ça. Pour le CIDJ, oui, j'ai travaillé avec eux. C'est un organisme passionnant. Alors malheureusement, il a déménagé. Donc avant, il était sous la Tour Eiffel à Paris. Un organisme ouvert à tous, donc juste sur rendez-vous. Il a déménagé dans un autre quartier en s'étant dispatché en 2 zones. Mais ça n'est pas gênant puisque maintenant, merci Covid, on peut accéder par visio. Ça, c'est un gros point positif. Mais pareil, il y a des rendez-vous. L'avantage du CIDJ, c'est que c'est des intervenants qui sont très très neutres, très ouverts à beaucoup de formations, aussi bien publiques que privées, et toutes régions confondues. Donc grâce à quoi, si vous avez cette volonté d'autonomie et surtout cette volonté de réussir dans une orientation qui n'est pas nécessairement locale, eh bien vous aurez vraiment un regard neutre. Et le dernier élément, c'est comme ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre établissement, ils analysent simplement vos bulletins, les remarques. Ils le font avec une neutralité absolue parce qu'ils ne vous connaissent pas.
D'accord. Alors, une petite question. Que ment-il pour améliorer la préparation de ce stage? Que pourrait-on innover qui conviendrait mieux aux jeunes? Faut-il passer par le numérique? Faire connaître les filières porteuses d'emploi via des rencontres ou des recruteurs, ça se fait plus ou moins déjà. Des forums sur les métiers de demain ou les métiers qui recrutent. Pourquoi ne pas mettre en place des enseignements sur les métiers du futur, sur le marché de l'emploi en France, de façon générale? C'est vrai que ça, on ne le fait pas. Alors, en quatrième, troisième, on n'enseigne pas réellement le marché de l'emploi.
Alors, moi, je pense que le problème, d'abord, c'est que les anciens ne peuvent pas le connaître. C'est difficile de
vous
connaître.
Vous pouvez faire venir des intervenants, par
Alors, tout à fait, c'est ce que j'ai fait, mais on peut le faire à la rigueur en étant prof principal et en voulant s'impliquer sur cette partie-là, parce qu'il peut y avoir d'autres problématiques, hein, selon les établissements, et la volonté du chef d'établissement. Donc, le fait d'impliquer sur l'orientation, bien, on parlait de la Fontaine des Prés. Donc, la Fontaine des Prés a fait pendant plusieurs années, alors je ne sais pas s'ils ont arrêté, mais depuis, pendant plusieurs années, ils obligeaient les parents, quelque part, mais surtout les jeunes, à se rendre un samedi matin, à une fois l'an, autour de février, un samedi matin, à des forums métiers, alors si l'on veut. C'est fait tous les ans. Et qui a impliqué le collège de la Chapelle-en-Serval et un autre collège de Senlis. Donc ils étaient trois collèges à coordonner quelque part l'obligation qui était faite aux jeunes de se rendre un samedi matin de la 5e jusqu'à la 3e. Tant qu'ils n'avaient pas trouvé une voie d'orientation, ils étaient obligés de se rendre à ces réunions. Donc, ils passaient la matinée ou pas, mais je crois qu'ils avaient l'obligation au moins de cocher deux cases
ou trois.
De présence sur. Et c'était très bien. Oui. Voilà, très belle idée.
Ils devaient donner trois salles dans lesquelles ils devaient aller.
Ils allaient et où ils étaient pointés, je crois. Oui. Donc,
et là, c'est bien parce qu'il y a une obligation. Parce qu'à l'époque de mes enfants, il y avait effectivement des salons au collège ou au lycée, mais. C'était au bon vouloir, voilà, des parents surtout, voilà. Là, j'aurais voulu qu'on écoute un extrait de l'émission Compteur des métiers, hein, enregistré par Gérard et Frédéric. Donc, allons-y.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue sur RVM Radio Valois, Mussien 93.7, pour l'émission Cap sur le futur. Au micro, Océane, à votre service, pour m'accompagner dans son beau moment. Je me suis entourée de mes camarades.
Lohan, bonjour.
Ethan, bonjour.
Midi, bonjour.
Bonjour.
On vous souhaite de passer un chaleureux moment avec nous. Aujourd'hui, on va démarrer notre interview avec Monsieur Éric Renoux, dont le métier est chef d'établissement scolaire.
Très bien, bonjour.
Pouvez-vous nous présenter votre métier en quelques mots ?
C'est un métier passionnant, c'est un métier qui est très diversifié. Ce métier a des géométries variables et dépend véritablement de l'établissement dans lequel on exerce.
Est-ce que c'est le premier établissement ?
C'est mon troisième établissement. Donc, je suis arrivé au 1er septembre 2021, après avoir passé 9 ans au collège Marcel Pagnol à Bec, petite commune de l'Oise, 15 km de Villers-Cotterêts.
Et avant, vous étiez où ?
J'étais donc à Marcelin Berthelot, à Nogent-sur-Oise.
Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce métier ?
L'engagement, la volonté effectivement de faire progresser les choses, la volonté d'accompagner effectivement les élèves vers la réussite. C'est un métier qui est très très diversifié. On ne sait jamais précisément de quoi sa journée sera faite. Ça permet d'éviter la routine, ça c'est sûr.
Diversifié comment ?
On a effectivement la gestion des ressources humaines, la gestion des élèves également, la gestion des locaux, la gestion de l'existence, du déroulé du calendrier scolaire, la gestion de l'orientation, la gestion des désaccords et des conflits parfois entre élèves.
Avez-vous effectué des études particulières ?
Des études universitaires. J'ai maîtrise en sciences économiques et gestion des entreprises. Ensuite, pour devenir personnel de direction, il y a un concours que l'on passe, que j'ai passé en 2007.
Quel a été le collège le plus difficile ?
Ils sont tous différents. Donc, on ne peut pas vraiment parler de degré de difficulté. Ils sont différents, tout simplement.
Quelles qualités faut-il pour exercer votre métier ?
Il faut avoir de la personnalité, il faut être un bon technicien, il faut être patient, être à l'écoute des autres, faire preuve d'empathie, et puis être curieux aussi.
Que veut dire empathie ?
La faculté d'une personne à pouvoir se projeter et comprendre les autres.
Quels sont vos horaires de travail ?
C'est très variable en fonction de la période de l'année. Globalement, le matin, l'établissement ouvre à 7h30. Je suis là entre 7h30 et 8h15, ce soir je serai là jusqu'à 19h-19h30.
Et pourquoi vous restez si tard au collège ?
Ce soir, donc, j'ai un conseil. Donc, les conseils de classe, effectivement, se déroulent en dehors du temps scolaire. Donc, ça prend plus de temps. Les conseils d'administration, les conseils de discipline. Les réunions, comme il va y avoir dans peu de temps pour le nouveau projet d'établissement, ça prend du temps.
Voilà. Donc là, c'était vraiment un petit morceau d'un compteur des métiers. C'était un peu aussi, j'ai voulu l'insérer dans cette émission pour que les auditeurs, auditrices se rendent compte que qu'est-ce que le compteur des métiers. Tu veux nous en dire un peu plus là-dessus, Gérard ?
Le compteur de métiers, nous, on le fait avec Frédéric tous les ans, donc dans deux ou trois collèges. Là, c'était à Villers-Cotterêts. Donc, ce qu'on veut surtout, c'est que les élèves préparent leurs questions et qu'ils essayent de rebondir sur ce qu'ils écoutent. Parce que la plupart du temps, ils écoutent, Et puis, s'il y a un mot ou quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils n'osent pas le demander.
Et là, il l'a demandé.
Oui, parce que, c'est si très tu bien. Veux, nous, on est avec nos petits papiers, comme ça, à côté. Et dès qu'on a un mot comme ça, on met le petit papier, puis on leur glisse pour qu'ils posent la question. Mm-hmm. On essaie toujours de leur faire rebondir sur ce qu'ils écoutent, parce qu'ils ont tendance à écouter, puis à laisser passer.
D'être passif.
Et par contre, les questions, c'est toujours eux qui les préparent.
Qui les préparent avec le professeur. Oui. Voilà, oui. C'est ça. Donc, ils font une recherche déjà d'abord sur
le métier. Selon les métiers, voilà. C'est sûr. Derrière ça, on avait un maître chien, et bien évident que on ne peut pas poser les mêmes questions.
Tout à fait. OK. Est-ce que vous auriez, l'un et l'autre, quelques conseils pour faciliter la recherche de stage?
Bah, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut s'y préparer beaucoup plus tôt, c'est tout.
Et toi, Marie?
Oui, il faut vraiment le travailler avec ses parents ou avec des proches, hein, même des amis de collège. Hein, s'il n'y a pas possibilité de le faire directement avec les parents, ça peut très bien être fait avec d'autres, même avec d'autres proches. S'il n'y a pas...
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels conseils vous donnez directement à ces jeunes? Bon, bien sûr, la préparation. C'est-à-dire, toi, quand tu vois les jeunes, qu'est-ce que tu leur dis? Alors, bien sûr,
mais
c'est
présentable. Mais je leur pose une question toute simple. Quel métier voulez-vous faire? On me dit, par exemple, je vais être vétérinaire. Et je leur dis, avec qui tu vas travailler? Alors, on me regarde. Avec qui je vais travailler? Je pose la question, avec qui tu vas travailler?
Est-ce qu'ils ont déjà fait des recherches, admettons, sur un métier qu'ils voudraient faire?
Non, mais
le
c'est
nombre
pour ça.
Le nombre d'années au niveau scolarité.
Non, mais ça, c'est
scolarité.
Les études derrière. Mais ouais. Moi, je leur dis, bon, ben, bah, d'accord, t'es vétérinaire et tout, mais qui prend tes rendez-vous? À la limite, t'as pas besoin d'une personne, d'un secrétaire, d'une secrétaire. Et puis, si t'as maintenant de la chirurgie à faire, tu crois que tu le feras tout seul? T'auras pas besoin de quelqu'un avec toi? Et puis, ta comptabilité, comment tu fais?
Oui,
tu penses
pas.
Que vétérinaire, voilà, tu es vétérinaire.
C'est que les animaux, ouais.
C'est ça.
Du coup, font un raccourci.
Alors, je pars après sur un autre, quel métier il veut faire, mais à chaque fois, j'en viens. Mais vous ne travaillerez jamais seul. Et ça, ça...
Oui, alors, il y a peut-être aussi ce travail d'équipe aussi qu'ils ne connaissent pas.
Ben non.
Plus.
C'est pour ça que je leur dis, quand vous allez faire votre stage, surtout, questionnez bien les personnes pour savoir avec qui ils travaillent. Parce que souvent, dans les entreprises, ils ne travaillent pas tout seuls. Il faut les... toutes les commandes, etc., etc. J'ai dit, mais vous allez voir...
D'où
vous...
l'importance, effectivement, quand ils font leur stage, c'est d'aller un petit peu dans tous les services pour voir la coordination entre les personnes.
C'est ce que nous, on faisait faire.
D'être curieux, de poser toutes les questions. Voilà.
Alors, on me fait signe qu'il ne reste que 2 minutes, à peu près. Alors, en conclusion, que pouvons-nous dire à ces jeunes? Bon, tous les métiers sont ouverts à tous et il ne faut pas non plus qu'ils s'autocensurent. Qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion, toi, Marie?
Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que le 27 février, comme tu me l'avais dit de le faire, j'organise une autre réunion qui aura pour objectif justement d'impliquer les parents encore un peu plus, ainsi que leurs jeunes. Alors j'espère que tous ne vont pas avoir peur. Mais l'idée, c'est justement des jeunes aussi bien de la 4e, 3e, 2e et leurs parents, bien évidemment.
5e,
Oui, je veux bien la 5e
aussi.
Bon,
alors 5e, bon, c'est dit.
Je veux bien la 5e. Parce que, en effet, je considère que c'est à cette époque-là, dans ces âges-là, que les voies d'orientation se mettent en place. Et bon, on dit qu'il y a toujours un rattrapage possible, hein, une réorientation, on a le droit à l'erreur, etc. Mais c'est jamais aussi facile que quand on l'a fait bien en amont. Donc voilà, c'est la seule chose. Donc le 27 février au soir, ce sera à partir de 19h et c'est à la croisée des possibles, l'UERP. Donc grâce à ça, je peux accueillir les personnes et ce sera sur inscription sur objectifreussir.eu. Puisque là, j'ai la capacité 70 personnes, mais voilà, il y a le confort et surtout, ça peut se faire.
Et c'est à Crépy-en-Valois.
Voilà.
Gérard, en conclusion.
Ah ben, j'allais finir, moi.
Ah ben non, mais je ne sais pas, une petite conclusion, 1 minute, allez. Puis Jackie aussi, vite fait,
eh ben,
deux mots.
Jackie.
En conclusion de cette thème, c'est d'avoir un maximum d'objectifs et puis de pouvoir le faire le maximum pour y arriver, justement.
Eh bien voilà, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement notre invité. Cette Merci. Émission Pédago Rando sera diffusée pendant le mois de février, le vendredi 10 à 19h, le lundi 13 à 16h30, le samedi 25 à 17h et le mercredi 1er mars à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera la précarité des étudiants. Merci à Luc à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-mulsien.fr. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Darmon et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est que bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés, et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac.